Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, au micro Jérôme Longuet. Cette semaine, Escale s'intéresse à la situation politique et humanitaire en Afrique de l'Ouest et au Sahel avec le représentant spécial de l'ONU dans cette région, Mohamed Imt Chambas. Puis dans une seconde partie, coup de projecteur sur le travail de Leila Zeroughi, autre représentante spéciale de Ban Ki-moon, qui elle est en charge de la protection des enfants dans les conflits armés. Le 11 juillet dernier, devant le Conseil de sécurité, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest, Mohamed Imt Chambas, a appelé la communauté internationale à soutenir les progrès accomplis par les pays de la région menacés par le terrorisme, la faim, l'expansion du désert et la diminution des ressources en eau. Le chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel a toutefois salué un certain nombre de progrès démocratiques accomplis par les États de la région. Autant de sujets sur lesquels il est revenu au micro de Jocelyne Sambira.
Nous avons un message d'un côté qui explique le progrès qui est là. Et nous voyons en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel, en ce qui concerne les élections, le processus démocratique qui est en train de consolider. Cette année, on a déjà eu 3 élections et 1 référendum. 3 élections au Bénin, au Niger et en Cap-Vert qui sont déroulées dans de bonnes conditions, des élections pacifiques et crédibles. Nous avons même eu une alternance de pouvoir au Bénin et en Cap-Vert. L'opposition sont gagnés les élections et on a vu un transfert de pouvoir sans aucun problème. C'est-à-dire, l'Afrique de l'Ouest est en train de consolider le processus démocratique, le processus électoral. Mais, en même temps, nous avons des défis, surtout des défis sécuritaires qui se posent aujourd'hui avec Boko Haram, au nord du Nigeria, au Cameroun, au Tchad et au Niger. Mais voyons que les pays sont faits de progrès dans cette lutte contre le Boko Haram. Mais il faut un soutien fort des Nations Unies, de la communauté internationale, pour que nous puissions définitivement éliminer Boko Haram. Mais aussi, comme vous savez, au nord du Mali et dans le Sahel, nous avons toujours le problème de djihadistes et il faut un effort très fort pour lutter contre ces djihadistes qui, aujourd'hui, menacent même tout le Sahel et les pays de l'Afrique de l'Ouest tout entier. Nous avons également le problème de trafiquants de tout sort. Ce problème est difficile. Les pays de Sahel sont des pays qui n'ont pas de moyens pour eux-mêmes lutter contre les trafiquants de drogue, trafiquants des armes, trafiquants humains. Et ils sont bien organisés avec des ressources énormes. Donc, c'est un problème qui est, à mon avis, un problème international. Donc, il faut un soutien de la part de la communauté internationale pour les pays du G5, les pays de la Sahel, pour confronter tous ces défis.
Il y a des pays aussi comme la Gambie où récemment il y a eu une répression contre les gens qui protestaient. Qu'est-ce que l'ONU était en train de faire?
Nous sommes toujours concernés par la situation en Gambie parce que aujourd'hui dans l'Afrique de l'Ouest, si on parle des élections, nous voyons une amélioration de la climat, un climat qui favorise les activités politiques par, bien sûr, le parti politique, mais aussi la société civile. C'est vrai, ce que nous voyons en Gambie n'est pas tout à fait satisfaisant. Et donc, il faut continuer avec la diplomatie, il faut continuer avec le dialogue, il faut continuer de dialoguer avec l'autorité gambienne, de juste donner l'opportunité, comme d'ailleurs c'est le cas dans l'Afrique de l'Ouest, dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'il y a de protocole de la CEDEAO qui envisage que le peuple doit avoir la liberté des expressions, de la liberté d'assemblée, pouvoir exprimer les choix pendant une élection. Donc, on va continuer de travailler pour créer cette possibilité pour tous les Gambiens de leur donner l'opportunité de choisir leur leader. Ce qui se passe aujourd'hui avec le leader du parti opposition n'est pas élégant. Donc, il faut qu'on trouve un moyen pour que le leader d'opposition avec ces gens qui sont en détention soient libérés et comme ça, donner le peuple gambien l'opportunité de faire leur choix pendant les élections le 1er décembre.
Et si nous passons un peu à la situation humanitaire à cause de l'insécurité et parfois aussi à cause des changements climatiques et des problèmes de l'environnement, qu'est-ce que les acteurs humanitaires sont en train de faire pour améliorer ou alléger la souffrance des populations?
Le problème qui se pose, c'est un problème qui est énorme. Aujourd'hui, dans le nord-est du Nigeria, Cameroun ou Niger, on se trouve avec une population de 3 millions déplacés, des réfugiés à cause du terrorisme Boko Haram. Et les Nations Unies, le bureau de OCHA, avec toute l'équipe pays au Nigeria, en Cameroun, sont mobilisés avec le partenaire développement, mais bien sûr avec les autorités nationales, les autorités locales, les sociétés civiles locales et internationales. Il faut un effort partagé de la part de toute la communauté humanitaire pour faire face à ce problème qui se trouve aujourd'hui dans la région de la basin de la Tchad. S'il y a un exemple d'une crise avec un fort lien avec le changement climatique, c'est le cas de le bassin du lac Tchad. Comme vous savez, c'est un lac qui a diminué en espace par 90% en 50 ans. Donc c'est énorme avec tous ces 15-15 que nous voyons aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut que la communauté internationale travaille avec tous ces pays, toutes les communautés, voir comment aider pour un rétablissement de la vie normale pour la population.
Hasard du calendrier, toujours le 11 juillet, l'ONU a organisé à New York une manifestation de haut niveau sur le thème « Réinsertion et réintégration des enfants touchés par les conflits armés ». L'objectif était de mettre en commun les pratiques optimales pour la réinsertion psychosociale et la réintégration sur le terrain. Une manifestation co-organisée par la mission permanente de la Belgique auprès des Nations Unies et par le bureau de la représentante spéciale du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, Leïla Zerougui. Cette dernière est revenue au micro de Maïe Yacoub sur cet événement, mais aussi sur les exigences de son mandat.
C'est un événement extrêmement important, d'abord parce que la réintégration est parfois le parent pauvre quand on parle des enfants. La réintégration, c'est la prise en charge des enfants qui ont été terriblement affectés par les conflits. Donc c'est important d'avoir des gens, d'avoir la reine de Belgique et d'avoir l'UNICEF et d'avoir d'autres. Je suis sûre que beaucoup d'ambassadeurs vont se joindre à nous. Donc c'est extrêmement important. Le secrétaire général sera parmi nous. Il y a aussi le contexte actuel. Nous avons des crises majeures. Je crois que depuis que j'ai commencé à travailler avec les Nations Unies, je n'ai pas vécu plus de 10 crises en même temps. Et éparpillées sur le monde, entre l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Afghanistan et d'autres endroits. Donc c'est tellement important d'expliquer à tout le monde combien c'est nécessaire. C'est vital. S'occuper des enfants, c'est s'occuper de la génération de demain. Assurer, leur donner de l'espoir, c'est leur permettre de tourner la page de la souffrance, de la violence qu'ils ont vécue, qu'ils ont subie, qu'ils ont parfois été forcés à commettre sur d'autres. Les enfants ont besoin d'être réhabilités vis-à-vis d'eux-mêmes d'abord, réinsérés dans leur communauté. Ils ont besoin d'avoir de l'espoir, et pour avoir de l'espoir, ça veut dire qu'ils pourront devenir les futurs cadres et dirigeants de demain. Tout ça demande du travail, demande de l'argent, demande de l'expertise, demande du savoir-faire, demande monde, de construire la paix, d'ouvrir les opportunités. Et c'est pour ça, c'est tellement important d'expliquer, un, pourquoi c'est important de le faire, deux, qu'est-ce qu'il faut faire, trois, qui peut faire quoi pour aider les enfants.
Madame Laila, est-ce que vous avez mis en place un mécanisme pour aider à la réhabilitation et la réintégration des enfants touchés par les conflits? Et si c'est le cas, que pouvez-vous dire à ce sujet?
Vous savez, le mandat que j'ai l'honneur de représenter est un mandat qui nous permet de communiquer avec l'Assemblée générale qui nous a créés, le Conseil de sécurité qui a décidé que la question des enfants et les conflits armés c'est une question qui touche la paix et la sécurité dans le monde, le Conseil des droits de l'homme parce que les violations des droits de l'enfant sont des violations des droits de l'homme. Donc on a tous ces mécanismes qu'on peut utiliser et qui peuvent nous permettre justement d'intégrer cette perspective des enfants, de leur réintégration, de leurs préoccupations dans ces mécanismes-là. Le mécanisme pour nous, le nôtre, qui est déjà décidé par le Conseil de sécurité dans les résolutions qui ont créé le listing des parties qui commettent des violations, 5 violations entraînent listing, 60 sont sur la liste dans 14 pays. Donc tout ça, c'est le plan d'action. Le plan d'action, c'est quoi? C'est des actions qu'on identifie dans le contexte concerné par rapport à une partie qui commet des violations dans le pays. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter les violations, pour les prévenir et bien évidemment, comment on intègre les enfants? Quelle communauté les enfants doivent être? Est-ce qu'il y a des besoins pour la communauté? Est-ce que les enfants sont en danger dans leur communauté? Il faut les protéger? Est-ce qu'il faut les emmener à l'école? Donc, le plan d'action est un outil. On a aussi les SDGs qui sont vraiment un outil important puisqu'ils ont intégré l'expression claire « personne ne reste derrière ». Donc, les enfants dans les conflits aussi. Et on essaye de travailler. On a aussi une autre initiative qu'on va lancer, le partenariat pour mettre fin à la violence contre les enfants. Aussi, on va parler de la réintégration des enfants dans les conflits armés. On utilise toutes les opportunités. Une autre opportunité super intéressante, c'est les processus de paix. Le processus de paix, si on oublie les enfants, on les oublie pour toujours. Parce que la société, après, elle sera tellement préoccupée par un million de choses et on les oublie. Donc nous, on dit, quand vous discutez de la paix, vous avez la génération de demain. Ils sont la majorité dans chaque pays en conflit et ils sont le futur. Et ils ont leurs parents. S'ils souffrent, les parents aussi souffrent. Donc tout le monde a besoin qu'on prenne en charge les enfants. Nous avons un exemple parfait, c'est la Colombie, où vraiment on a réussi et c'est la première fois qu'on voit un processus de paix avec un plan d'action qui prévoit, qui est guidé par l'intérêt suprême de l'enfant. Les enfants sont d'abord victimes et la réintégration avec la prise en charge communautaire.
Madame, vous avez un mandat du Conseil de sécurité que vous demande d'informer sur les pays ou bien les entités qui commettent des violations graves qui touchent les enfants en période de conflit. Comment vous et votre équipe faisiez cette évaluation?
Lorsque nous avons une situation où des violations graves sont commises contre les enfants, nous travaillons avec l'équipe pays, l'équipe des Nations Unies dans le pays concerné. Le Conseil de sécurité, là où on a des parties listées, il crée une entité qu'on appelle l'équipe pays de vérification et de communication de l'information, qui tous les 3 mois nous envoie un update, donc une mise à jour sur qu'est-ce qui se passe dans le pays, pas seulement rapporté sur le gouvernement, mais toutes les parties impliquées dans le conflit, groupes armés et gouvernement. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les violations qui sont commises? Les mesures qui sont prises pour prévenir les violations, pour protéger les enfants, etc. On rapporte sur tout ça. Quand on a des cas où on a des tendances répétées, par exemple des attaques récurrentes, nombre d'enfants très élevés qui sont tués, qui sont blessés, des écoles détruites, etc. On rapporte au Conseil à travers le rapport du secrétaire général, parce que c'est le secrétaire général qui rapporte au Conseil de sécurité. Donc on prépare le rapport du secrétaire général et, comme je disais tout à l'heure, on travaille avec eux s'ils veulent arrêter, s'ils sont prêts à travailler à travers les plans d'action et les mesures qu'on peut prendre ensemble pour cesser les violations.
Voilà, fin de ce magazine Escale présenté cette semaine par Jérôme Longuet avec la complicité de Jocelyne Sambira, de Maï Yacoub, mais aussi de Florence Westgaard. Escale magazine que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur Internet et via les médias sociaux. Merci de votre fidélité. Je vous rappelle les rendez-vous quotidiens du journal de la Radio des Nations Unies et le prochain numéro d'Escale qui, lui, aura lieu la semaine prochaine.